Hey. Morin, live.
Avec Dominique Morin.
Un peu de positif dans notre vie.
Radio.
Et c'est rare qu'on fait ça, mais on est live, pas sur Facebook, mais sur YouTube. Oui. Tout est beau, c'est réglo, parfait.
Tout est beau, c'est réglo.
On est en direct de Radio X, en direct de Grande Allée.
Tout est beau, c'est réglo. Écoute, on est beau en plus.
Ça, faut pas exagérer. Fake news. C'est une promesse électorale?
Promesse électorale, on va s'améliorer de jour en jour.
Merci beaucoup. On est dans Jean Talon d'abord, donc c'est le débat un peu du comté de Radio X. Nous autres, on est au 1134 Grande Allée Ouest, bureau 300, et on est dans Jean Talon. Et on est en compagnie du député sortant Pascal Paradis du Parti québécois. Merci beaucoup.
Bonjour.
De votre présence. Pas besoin d'écouteurs, mais vous avez le choix de les mettre ou de pas les mettre. Il n'y a pas de surprise, on ne fait pas jouer d'extrait, whatever. Julie Ouad du Parti libéral du Québec.
Bonjour.
Quatre thèmes. On switch. Qui commence, etc. Donc, c'est équitable. Il y a quatre thèmes. Et je vais commencer avec le premier. Ce sera chronométré, mais en même temps, si ça déborde, on veut que ça s'emballe, on veut qu'il y ait un débat. On ne fermera pas le micro à cinq minutes près, mais Dan se charge de ça. Puis je veux commencer avec le thème de l'immigration. Et la première à engager le débat, ça sera Mme White. Mme White, vous venez du domaine des manufacturiers, donc vous, on les a entendus. Là, au fil du temps, vous demandez plus de travailleurs, des seuils plus hauts. Le Parti québécois a confirmé, reconfirmé sa position le week-end dernier, immigration permanente de 35 000 avec une autre série de mesures pour l'immigration, mais c'est nécessairement plus restreint que le Parti libéral. Donc, dans Jean Talon et dans la région, c'est quoi le problème aujourd'hui? Est-ce qu'on manque de monde dans les usines, dans les commerces, ou on a dépassé notre capacité d'accueil? Qui a raison, Mme White?
Ben écoutez, c'est un peu les deux. Hein? On a à la fois des besoins de main-d'œuvre importants. À Québec, en ce moment, dans la capitale nationale, il y a 11 000 postes vacants. Ça fait qu'on a des besoins, que ce soit pour les CHSLD, les RPA, les écoles et les entreprises. Mais on a aussi une pression sur les services publics. Puis on ne le nie pas du côté du Parti libéral, juste à être clair. Je pense qu'il faut juste voir les choses d'une façon un peu plus rationnelle. On a des travailleurs étrangers temporaires, notamment, qui sont ici, qui travaillent, qui payent des impôts. Comment on fait pour les garder, eux autres, ici? On n'a pas besoin de se débarrasser d'eux. On a des besoins de main-d'œuvre. Comment on trouve des solutions qui sont différenciées par région? Mais mathématiquement, on a un enjeu au Québec, là. On arrive au pic du vieillissement de la population en 2030.
Vous adressez à M. Paradis.
Pascal, pas je vais te regarder.
J'ai rien
mais
à voir
on a un vieillissement de la population. On a fait moins de bébés que de décès cette année. Faut qu'on réfléchisse à comment on veut continuer à avoir de la main-d'œuvre, mais de façon intelligente.
Vous allez-y, c'est un débat.
Et puis en passant, c'est pas parce que la CAQ a été mauvaise avec l'immigration et a mal planifié les écoles, les services publics qu'il faut jeter le bébé avec l'eau du bain puis dire c'est tout mauvais puis tout est la faute des immigrants. Moi, je pense qu'il faut prendre notre petit pas de recul, notre grande respiration dans ce dossier-là puis le regarder d'une façon beaucoup plus rationnelle.
Oui, et justement, pour le regarder de façon rationnelle, ça prend un plan. Et ça prend un plan qui tient compte des leçons apprises des 10 dernières années. Parce qu'il y avait un modèle d'immigration qui fonctionnait au Québec jusqu'à à peu près 2017-2018. Et là, il y a eu une croissance fulgurante de l'immigration, donc avec des seuils qui ont dépassé la capacité d'accueil. Et pour avoir donc une position raisonnée, il faut avoir travaillé là-dessus. Le Parti québécois est le seul qui est arrivé avec une étude détaillée de la situation. C'est un plan en immigration qui fait 97 pages, 245 sources indépendantes, des analyses, des données, des statistiques. Et ce plan-là, il établit un modèle viable pour l'immigration au Québec qui tient compte du fait que la capacité d'accueil a été dépassée avec cette pression sur les services publics dont Mme White parle, mais aussi des besoins des entreprises. Donc, il ne faut pas faire du mur à mur, il faut avoir des seuils raisonnés et raisonnables qui permettent de tenir compte des besoins dans certaines régions, dont la capitale nationale, et dans certains secteurs sous tension, par exemple le manufacturier ou l'industriel. Donc nous sommes les seuls à avoir une position transparente, chiffrée, autant sur l'immigration permanente que sur l'immigration temporaire, parce que c'est là où il y a une question qui est très importante, c'est l'immigration temporaire. On est passé de 100 000 personnes qui sont avec un statut temporaire au Québec en 2016 à 500 000 aujourd'hui. C'est une croissance de 361 %. Et savez-vous ce qui s'est passé avec la pénurie de main-d'œuvre entre-temps? La pénurie de main-d'œuvre non seulement n'a pas été comblée, mais certaines données, des études, notamment celle de Pierre Fortin, démontrent que la pénurie de main-d'œuvre a augmenté. Pourquoi? Parce que, bien sûr, une personne qui arrive au Québec est aussi demandeur de services.
Mais Pascal, il y a des...
Et de produits.
On peut citer plein d'études, mais la première chose que tout le monde économique dit, c'est qu'on a des enjeux, c'est la préoccupation numéro un de l'ensemble des entreprises au Québec. On le voit dans tous les regroupements. En passant, moi, quand j'étais chez Manufacturier Exportateur du Québec, j'aurais bien aimé rencontrer PSPP, mais il n'a jamais voulu nous rencontrer alors qu'on avait plein de choses à parler. Je pense qu'il faut prendre notre pas de recul puis se dire, OK, comment on met les deux ensemble? Puis quand tu parles de ton plan, je comprends, là, vous avez un document, puis c'est bien de dire qu'on a un plan, mais il faut pas qu'on parle de qu'est-ce qu'il y a dans le plan. Puis qu'est-ce qu'il y a dans le plan?
C'est mieux d'avoir un plan que pas de plan.
Bien, écoutez, on en a un plan.
J'ai jamais entendu parler de vos chiffres.
On a dit qu'on... Puis il y a une campagne électorale.
Parce que vous, dernièrement, vous étiez sur l'augmentation des seuils.
On est sur le maintien des travailleurs.
Est-ce que vous voulez toujours augmenter les seuils?
Est-ce que je peux parler ou tu vas me couper tout le long?
Mais non, mais je pose la question.
On a une position qui nous dit qu'il faut qu'on garde les travailleurs qui sont ici. On a une campagne électorale qui est en cours. On va présenter nos propositions. Mais il y a une chose qui est claire. Dans votre plan, vous coupez et vous ne dites pas où. Tu me disais qu'en 2017-2018, il y avait un système d'immigration qui fonctionnait. C'est très bien. Mais on n'était pas du tout dans les chiffres que tu parles là. Et il faut prendre le temps de le regarder d'une façon plus importante. En fin de semaine, vous avez fait un point de presse devant une école en mettant le poids des besoins scolaires uniquement sur les épaules des enfants immigrants. Ça, c'est le genre de choses qui, dans le discours, n'aide absolument pas à avoir.
Mais c'est le problème, notamment du Parti libéral et d'autres partis politiques, qu'à chaque fois qu'on veut poser un constat lucide, par exemple, des impacts sur les services publics, y compris les écoles.
12 % d'immigrants à l'école Roger Comtois.
Mais c'est la même chose, il ne faut pas interrompre des deux côtés non plus. À chaque fois que c'est ça, là, on jette l'opprobre et on met en question les intentions. L'intention ici, c'est de dire, puis vous l'admettez vous-même, il y a un impact sur les services publics. Il y a 500 000 travailleurs étrangers temporaires ici. Il y en a plusieurs qui doivent rester parce qu'elles sont intégrées, elles parlent le français, elles contribuent à l'économie. C'est exactement ce qu'on dit. La question, c'est est-ce qu'on veut continuer à augmenter les seuils ou est-ce qu'on veut avoir des seuils raisonnables tenant compte de l'expérience des dernières années?
On
n'a pas la réponse du Parti libéral.
On veut avoir des seuils raisonnables, Pascal, mais vos seuils ne sont pas raisonnables par rapport aux besoins de main-d'œuvre. Juste dans le secteur manufacturier, il y a 12 000 postes vacants. Juste à Québec, il y a 11 000 postes vacants. Puis si on se promène là, dans les hôpitaux, les CHSLD, là, puis que tu te promènes le soir particulièrement, là, il n'y a pas de soins de santé qui se donnent le soir à peu près à Québec dans les hôpitaux si on n'a pas l'immigration.
C'est exactement pour ça qu'on dit que ça prend une politique ciblée. Oui, mais il y en a 500 000 actuellement au Québec. Ouais, est-ce que vous en voulez plus?
Parfait, merci. On est en direct. C'est la politique, c'est la campagne. Les autres partis sont invités et seront invités, le cas échéant, dans les prochaines semaines. C'est le débat, donc, Jean Talon, et on s'en va maintenant à l'économie. C'est M. Paradis qui va commencer. Quelle est votre vision pour rendre le Québec plus abordable? Il y a du monde qui nous écoute, qui a de la misère à payer le courant, à payer l'épicerie. C'est vraiment la priorité numéro un, avec d'ailleurs la promesse numéro un ou l'engagement numéro un qui est celui de détaxer les produits usagés, imaginez, c'est vraiment ça. On est là-dedans, là. Pas vrai. Un Québec plus riche, comment on fait ça? Plus agile, comment on fait ça? Votre vision est plus abordable. Monsieur Paradis, la parole est à vous. L'engagement vient de se faire.
Bien, justement, là, vous venez de parler de la taxation sur les produits usagés. Ça tombe bien. Hier, on a annoncé une de nos premières mesures pour réduire le coût de la vie pour aider les Québécoises et les Québécois qui nous écoutent puis qui ont de la difficulté à joindre les deux bouts. C'est une forme de double taxation. Donc, on a déjà vendu un produit, on a récolté des taxes, le gouvernement a récolté des taxes. Puis là, quand on vend ce produit-là, de nouveau, il y a encore des taxes dessus. Ça favorise l'économie circulaire, la réutilisation des produits. Ça diminue notre obligation d'importer des produits, notamment des États-Unis. Donc, c'est une mesure qui est très utile à la fois pour l'économie globalement et pour les Québécoises et les Québécois. Et on a plein d'autres mesures qui s'en viennent sur le coût de la vie. Sur l'économie en général, nous avons annoncé, et ça fait longtemps qu'on a annoncé nos couleurs, je l'avais fait à Sherbrooke il y a plus d'un an à un conseil national. Paul Saint-Pierre Plamondon est allé en Beauce l'annoncer. Mais nous, on annonce un changement complet de paradigme économique. Depuis des années, il existe un fonds qui a été politisé, qui est le Fonds de développement économique, qui fait en sorte qu'on a des milliards à chaque année, jusqu'à 8 milliards de dollars, qui sont investis au PIF de ministre ou du premier ministre qui choisit des gagnants et des perdants. Et nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut mettre fin à ce bar ouvert des subventions. Il y a deux partis qui veulent le continuer, le Parti libéral puis la CAQ. Nous, on veut y mettre fin. Et avec ça, on fait une diminution avec l'argent, les milliards qu'on épargne en mettant fin à ce bar ouvert. On diminue la fiscalité de toutes les PME de la région de 20 % Ça, ça donne de l'espace pour l'innovation, pour la formation de la main-d'œuvre et pour améliorer la productivité.
Pas uniquement, mais sur le FDE, là, c'est vraiment important de recadrer les choses. Il y a eu des très mauvaises décisions de la CAQ, on est d'accord là-dessus. Fitzgibbon, Fréchette se sont mis deux mains dans le fond pour certains investissements qui n'ont pas été bons. OK. Je vous invite à googler. Hein. Les engagements du fonds, là, ils sont sur Internet. Il y a des centaines de PME chaque année qui reçoivent de l'argent du Fonds de développement économique, que ce soit pour la commercialisation de produits, la transformation numérique, via des programmes normés. En ce moment, on est dans une crise économique, puis votre solution, c'est de dire on va cesser de soutenir les entreprises. Baisser la fiscalité
On dit fermer le FDE, Fonds de développement économique.
C'est de nuire aux entreprises parce que les entreprises, c'est vrai, avoir un certain niveau d'allègement fiscal, c'est intéressant, mais ça prend aussi des leviers pour financer certains éléments. Une transformation numérique, acheter une nouvelle ligne de production, c'est ce qu'on appelle CAPEX intensive en anglais. Là. Ça prend beaucoup d'investissement en capital. Et ça, les entreprises ont besoin de soutien. Puis je vais te donner un exemple dans Jean Talon. Folks RH, tu connais ça?
Oui.
Une super PME qui a été nommée dans le Journal de Montréal, les futures startups là, qui vont devenir les grands de demain. Bien, Folks RH a reçu de l'argent pour aider à sa croissance.
Sauf que...
Via le FDE.
Sauf qu'il existe... faut être clair là-dessus. Sauf qu'il existe déjà une centaine de fonds et de programmes d'aide qui vont demeurer... Investissement Québec a des critères.
Le programme Investissement
Québec a des critères.
FDE.
Les fonds de développement, par exemple, comme fonds d'action, comme le fonds de solidarité de la FTQ, là, il y a des critères. Je comprends.
Il y a des programmes normés dans
l'FDE, Pascal. Je comprends
pas vrai,
que
là.
Julie défend le modèle qui a été créé par le Parti libéral, par Jean Charest,
défends l'aide
en
aux
2011,
entreprises.
De dire on va permettre à des politiciens de choisir les gagnants et les perdants.
C'est pas du tout ça, Pascal. Tu mets des mots dans ma bouche, c'est totalement faux ce que je te
dis. Il y a 8 % des entreprises qui ont touché de l'argent du FDE. Le problème du FDE, le Fonds de développement économique, c'est que c'est un fonds politique qui n'a pas de critères.
C'est pas vrai qu'il n'y a pas de critères.
La CAQ a donné 268 millions de dollars sans critères avec ce...
On s'entend que la CAQ a été mauvaise avec le FDE, Pascal.
Il faut mettre fin à ce bar ouvert. C'est pas aux politiciens de choisir les gagnants et les perdants. Ça, ben oui,
ben,
mais
le programme ESSOR est financé via...
Ce n'est pas aux politiciens de choisir les gagnants et les perdants.
Ben non, ça, je suis d'accord.
Laissons les fonds qui fonctionnent, mettons fin aux fonds politisés.
Le FDE finance des programmes comme ESSOR qui sont des programmes normés sur la transformation numérique. Il y en a plein d'autres. Quand tu dis que c'est un bar ouvert, c'est une partie du FDE qui a été utilisée très, très mal par la CAQ. Mais ce que tu dis, ce n'est pas vrai. Et quand on regarde l'ensemble des bénéficiaires du FDE, il y a des PME à travers le Québec qui ont réussi à faire des projets à cause de ça. Est-ce qu'il est bien encadré en ce moment? La réponse, c'est non, il y a de l'amélioration
à faire. La réponse du Parti libéral, c'est de dire, nous, on veut continuer à avoir la discrétion d'investir
de
l'argent.
C'est pas ça que j'ai dit.
Fonds politique créé par Jean Charest. Il faut mettre fin à ce bar ouvert
Pascal,
et garder les programmes qui fonctionnent.
Tu peux répéter tes lignes, mais je viens de dire qu'il fallait réencadrer le FDE. Tu peux répéter
De la marge de manœuvre, il y en a. Ce qu'il faut arrêter, c'est que ce soit des politiciens qui, au
Pascal,
pif, choisissent des projets comme Nordvolt, qui ont coûté 710 millions.
C'est le fun d'avoir un député
changer
qui est à l'écoute, hein,
il y en a d'autres qui veulent pas le changer.
C'est vraiment le fun. C'est vraiment le fun, un député à l'écoute comme ça. C'est vraiment apprécié, merci. Moi, tu peux me répéter 10 fois
la
même
chose,
ligne.
Julie,
tu peux parler 10 fois la même ligne. J'ai dit que c'était pas ça, notre position. Notre position, c'est de mieux encadrer le FDE pour éviter des dérives comme Nordvolt et Lyon. Ça fait que tu peux répéter 10 fois que c'est pas ça, notre position. C'est ça, moi, je te le dis. Maintenant, ce que je te dis, c'est que quand tu jettes le FDE aux poubelles, tu renies des PME d'à travers tout le Québec dans une période où ils ont besoin d'aide à cause de la situation tarifaire. Et ça, c'est un signe d'une politique
Tu défends un modèle qui ne fonctionne pas. Et la différence, c'est que tu dis, nous, on va choisir, nous-mêmes, on va choisir les gagnants et les perdants mieux que la CAQ.
C'est pas ça que je te dis.
C'est un fonds politique. Il y en a une centaine d'autres des programmes d'aide aux entreprises.
Bon.
Il y en a plein qui fonctionnent, qui ont des critères.
Ça sert à rien de débattre si on n'écoute pas les réponses des autres.
On ne peut pas garder le bar ouvert des subventions aux entreprises. Il faut changer ça. Alors, nous, on change le paradigme.
OK. Merci beaucoup. Troisième lien. Y a-tu du trafic sur les deux liens ce matin?
Ce matin, le mot Libanais et Dawa.
Dawa? Non, c'est le Dawa, ouais. C'est le bordel.
C'est le bordel, c'est ça que tu dis. Exactement.
Là, c'est, comment ça circule? Peut-être le faire même live, ça s'est-tu amélioré?
Est-ce à l'heure actuelle, c'est sûr à 8h25, ça s'améliore toujours un peu.
Okay.
Mais ce qui est problématique ce matin, c'est qu'il y a un accrochage sur le boulevard Champlain. Donc, évidemment, quand on sort du pont, les gens qui prennent ce détour-là pour éviter la circulation, ben ça, okay, ça crée du trafic à ce niveau, à d'autres niveaux.
Vous, vous entendez pas sur le troisième lien. En fait... Vous préconisez du côté du PQ un troisième lien avec des autobus ou peut-être le tramway. On verra bien. Transport en commun uniquement. Vous me corrigerez, M. Paradis, si je suis dans l'erreur. C'est ça que vous préconisez? Troisième lien, transport en commun, c'est ça?
C'est dans la vision.
C'est votre vision.
C'est dans la vision du plan cité développé par CDPQ. On l'appuie. Mais ça, ça vient dans la fin de la...
Mais là, je ne l'appuie pas avec vous. Là,
ça vient de la... Oui. C'est la vision pour la fin de la troisième phrase. Et nous, on a la même position sur tous les projets d'infrastructure. Pas de projet de cette envergure sans des données probantes puis des analyses qui démontrent le besoin et que c'est la solution pour tous les projets. Troisième lien routier, troisième lien okay, transport en commun.
Mais là, je
ne débat
pas avec vous. Juste bien, parfait. Merci beaucoup. De votre côté, le Parti libéral, on a entendu votre chef quand même qui est originaire de Lévis, rappelons-le, qui est en faveur d'un troisième lien périphérique. Il l'a dit très clairement. Visiblement, vous ne vous entendez pas. La parole est à Mme White. Vous parlez aux gens... Plusieurs personnes actuellement, des milliers de personnes qui utilisent les deux ponts, l'un des deux ponts ou le traversier. Ça concerne beaucoup de monde. Allez-y, débattez. Et la parole est à Mme White.
Bien, je pense qu'à Québec, on a un enjeu de congestion, puis on a un enjeu de transport collectif, puis on doit être capable de marcher de la gomme puis marcher en même temps. Puis c'est ça qu'on essaie de faire, nous. La boucle périphérique, il va falloir la boucler à l'est. Ça, c'est clair pour nous. On ne sait pas, par exemple, ce que la CAQ a fait. Hein? 8 ans, puis il n'y a rien qui a avancé. On entend qu'il y a des consortiums privés qui seraient intéressés, mais on ne sait pas pourquoi. C'est qu'il va y avoir du travail à faire. Mais c'est sûr que pour nous, l'urgence numéro un, là, c'est de régler certains travaux qui auraient dû être faits puis qui vont améliorer la congestion très rapidement. Finir la foutue tête des ponts, ça fait des années que ça aurait dû être fait. L'élargissement de l'autoroute 20 à Lévis, pourquoi on a commencé ça il y a à peu près 6 mois? Puis le pont d'étagement à Le Bourgneuf, notamment. Ça fait que, oui, il faut travailler vers le troisième lien, puis on va y aller, mais il faut aussi régler ces enjeux-là parce que ça va avoir des impacts très, très rapides sur la congestion si on réussit à y arriver rapidement.
Oui, mais l'engagement est
moi,
fait.
Moi, j'aimerais ça savoir si on considère que si le PQ considère qu'on a des enjeux de congestion en ce moment.
Absolument. Et je l'ai dit et répété,
donc,
et notre parti l'a dit et répété. Moi, je suis le député de Jean Talon. Je suis au cœur des travaux actuellement et des problèmes de circulation sur Duplessis, sur Henri IV, sur Robert Bourassa, sur Laurier. Je suis moi-même un utilisateur du transport en commun. Je marche, mais je prends ma voiture et je suis fatigué que ça n'avance pas, peu importe le mode de transport qu'on prend. Il y en a des solutions. Je les ai proposés même, j'en ai parlé pendant la campagne électorale pour la partielle. Je continue à en parler. Il y a des études qui démontrent qu'on pourrait instaurer une 7e voie dynamique sur le pont Pierre-Laporte. Ça n'a pas été exploré parce qu'on est coincé avec la lubie de la CAQ sur le 3e lien routier. On peut considérer l'abaissement du tablier du pont de Québec. On peut avoir une gestion intelligente avec les nouvelles technologies de la circulation des deux côtés du pont. Et il y a bien sûr le plan cité, qui est un plan pour avoir un réseau de transport collectif structurant qui va contribuer à décongestionner. Mais là, le problème qu'on a, c'est qu'on a trois partis politiques, le Parti libéral, la CAQ et le Parti conservateur, qui proposent un projet qui repose sur du vent. Le Parti libéral, si je peux juste terminer, Julie, le Parti libéral a mis en place en 2017 un bureau de projet pour construire un troisième lien.
Ben oui.
Il a conclu en 2023, après 59 millions de dollars, que ce n'était pas la solution au problème de congestion. Il y a eu une étude ensuite en 2024 de CDPQ qui a dit la même chose. Le Parti libéral nous propose essentiellement
CDPQ...
de recommencer ces études-là.
Non, c'est pas du tout ce qu'on propose. Premièrement, ce qu'on propose, c'est de partir du travail qui a été fait puis de faire avancer le projet. CDPQ Infra a une mission particulière en passant. Hein. CDPQ doit faire de l'argent avec ses projets. Fait que, tu sais, oui, c'est intéressant de voir ce que CDPQ a dit, mais voyons-le comme c'est aussi... C'est un organe de l'État qui doit aller chercher de l'argent puis faire des projets qui vont leur ramener du cash. Avec nous, ce qu'on dit, c'est prenons le temps là, de régler les problèmes. Puis en passant, dans Jean Talon, c'est vrai qu'on a tout l'enjeu de la congestion. Puis on a surtout un très, très gros enjeu de communication entre les... Tu sais, il y a le ministère des Transports, il y a la Ville, il y a CDPQ Infra, il y a personne qui sait rien. puis j'ai pas vu grand-chose qui a été fait pour améliorer la communication avec les citoyens. Fait que moi, c'est sûr que si je t'ai lu, c'est quelque chose que je veux mettre en place, une espèce de cellule pour coordonner mieux avec les différentes personnes qui font les travaux, mais aussi communiquer directement à la population qui apprend le matin en se levant puis en partant au travail que leur rue est barrée ou que l'autre intersection est faite. Moi, j'ai pas vu ça dans les derniers mois. Fait que c'est un constat que je fais.
Ben en fait, je suis d'accord, Julie, ça, il y a l'arrimage entre les différents travaux puis les différents projets, les différents intervenants auraient intérêt à être améliorés, je suis d'accord, mais ça suffit pas, là. Il faut parler des... C'est quoi la grande vision?
C'est une première étape, puis ça, c'est un travail qui n'a pas été fait dans les derniers mois.
Julie, tu sais, couper, là, c'est de deux côtés, là. Je viens juste de commencer.
C'est ta phrase.
Mais donc, il y a des enjeux de communication, mais là, il faut parler de la vision. Aujourd'hui sort une nouvelle à l'effet que l'UNESCO dit que le statut de ville patrimoniale de l'UNESCO de Québec, qui est un outil extraordinaire pour le tourisme, est mis en danger par le projet que vous soutenez, sans aucune base, sans aucune donnée. C'est ça le problème de présenter des projets qui ne sont pas étudiés. Ça engendre des risques pour une industrie qui amène 6,7 millions de visites touristiques par année et près de 2 milliards de revenus touristiques par année. Est-ce que vous voulez vraiment mettre ça en danger?
Pascal, il n'y a pas de projet sur la table. On sait que la CAQ a fait des choses. On ne sait pas c'est quoi. On ne sait pas par où que ça va passer. Avant de dire qu'on va mettre en cause le statut de l'UNESCO, je pense qu'il faut voir que ça va ressembler à quoi le projet. Puis nous, on va le travailler de façon responsable. La CAQ a fait des projets sur des coins de table. On se ramasse 8 ans plus tard, il n'y a rien qui est là. Maintenant, on allait dans falaise de céleri. Là, est-ce qu'on peut se dire, si on veut que ça fonctionne un jour, on va prendre le temps de s'assurer qu'on respecte l'UNESCO.
Mais il a dit qu'il était pour un périphérique, votre chef.
Ben oui, on est d'accord. Mais c'est juste comment il va se faire. T'sais, avant de dire qu'on va perdre le statut de l'UNESCO, peux-tu voir comment on va le faire? À quoi il va ressembler, qu'est-ce que ça va donner.
Donc,
il y a des villes qui ont des ponts puis qui ont un statut de l'UNESCO. Ouais, est-ce qu'on peut l'intégrer dans
la vallée de l'Elbe a perdu son statut de ville touristique. Ça a eu des impacts importants sur le tourisme, sur l'économie. Vous proposez de faire la même chose avec un projet. Vous venez de nous le dire vous-même. Vous ne savez même pas c'est quoi votre projet. Vous faites la même chose que la CAQ.
Pas du tout.
Vous arrivez en période électorale. Parce que moi, j'ai entendu les députés du Parti libéral, depuis que je suis élu, être contre le troisième lien, même moquer le gouvernement de la CAQ, et là, vous proposez de faire pire que le gouvernement de la CAQ.
Les projets de
vous
la CAQ
arrivez avec ça
sans...
aux élections pour séduire l'électorat. C'est pas ça une vraie vision pour le transport et la mobilité durable à Québec.
Ça fait plusieurs mois et même plus d'un an que Charles en parle, donc c'est pas vrai ce que vous dites.
La région, et je finis avec ça, la grande région de Québec, la belle région de Québec, il y a la ville, il y a les banlieues, il y a la ville et il y a la... ce qu'on appelle la ruralité, les campagnes. Et il y a votre comté également. Là, vous vous adressez aux gens de votre comté, mais on veut connaître votre vision de Québec. Qu'est-ce que vous nous vendez? Qu'est-ce que vous nous mettez sur la table? Attends, moi, je demeure pas. Moi, je reste au comté de Charlebourg, mais on travaille ici, dans Jean Talon. Qu'est-ce qui fait en sorte que vous devriez devenir le porteur de messages, le porteur de projets pour ce comté-ci? Là, il y a une élection, c'est une longue élection, mais il y a beaucoup de gens qui vous écoutent et ça compte pour beaucoup de portes, ce qui se passe ce matin. La parole est à M. Paradis, député sortant. Mais pourquoi on devrait vous réélire ou vous élire?
Bien, j'étais en porte-à-porte hier et il y a une dame qui va me fournir le début de la réponse à votre question. Elle m'a dit, en tout cas, il y a une chose qui est sûre, M. Paradis, depuis que vous êtes élu, on n'a jamais autant parlé de Jean Talon, puis on dirait qu'on parle tout le temps de la capitale nationale. Et c'est vrai, ça sert à ça, un député qui est constructif, qui est présent sur le terrain auprès des entreprises, des organismes de la région et surtout de Jean Talon et des citoyens. Parce que ça, il y a un travail très important qui se fait au bureau de circonscription et j'ai été très présent. Je veux continuer à le faire et on a une vision très ambitieuse pour la capitale nationale qui passe d'abord par la propulsion de notre économie. Le plan PME qu'on propose avec une réduction historique de la fiscalité et du fardeau administratif, c'est bon pour les entreprises d'ici, qui sont des entreprises de l'innovation, de la technologie. Et ça, ça va commencer tout de suite après notre élection. On a la meilleure équipe économique, ça a été reconnu par à peu près tous les médias, pour faire face notamment à la crise commerciale avec les États-Unis. Donc ça a des impacts ici. Maintenant, on parlait tout à l'heure du tourisme. Il y en a qui veulent mettre en danger le statut touristique de la ville de Québec. Nous, on veut continuer à travailler là-dessus. Notamment, il y a des projets sur lesquels j'ai travaillé ici sur l'avenue Maguire avec la Société de développement commercial pour avoir un projet d'attractivité touristique qui s'appelle les murs de Maguire. Il y a plein d'autres projets qui sont en cours actuellement. Et il y a aussi la question des services publics. Beaucoup de gens me parlent en porte-à-porte de l'accès aux garderies, de l'accès aux soins de santé de première ligne. Ça va vraiment être parmi nos priorités au lendemain de l'élection.
Bien, de notre côté, on pense qu'il faut remettre la capitale nationale au centre des décisions. On l'a vu dans les 8 dernières années, on a été dans un va-et-vient de projets qui n'ont jamais abouti. On n'a pas respecté le statut de capitale nationale du côté de la CAQ. Mmh. On s'est un peu foutu de ça. Puis pour nous, ça, c'est la première chose peut-être. Puis tu sais, je sais que ça peut paraître symbolique, mais il faut qu'on remette le statut de capitale nationale, qu'on le renforce. Ça va nous aider à avoir des projets qui atterrissent. On a présenté une vision sur 10 ans là, de projets qu'on souhaite mettre de l'avant. Mais au-delà de ça, c'est vrai qu'il y a d'autres enjeux qui sont importants puis plus locaux. On a des enjeux d'école, notamment dans Jean Talon. Je me suis engagée à soutenir le centre de services scolaires pour l'ajout d'une école primaire au centre, pour faire l'agrandissement de Rochebelle aussi, où qu'on ait des besoins. On a des projets. C'est vrai que le projet de la rue Maguire, c'était bien, puis il faut continuer dans ce sens-là. Il faut essayer de revitaliser un peu, de redonner de l'espace pour que les gens soient fiers. Puis les services publics, ça va faire évidemment partie de la discussion. Maintenant, quand je fais du porte-à-porte, c'est sûr qu'il y a beaucoup de monde qui me disent qu'ils ne veulent pas, par exemple, de référendum. Puis ça, c'est quelque chose qu'il faut quand même qu'on souligne. Le Parti québécois a peut-être des bonnes propositions, mais le premier point, c'est quand même de faire un référendum. Donc, ça l'impacte et on s'en fait beaucoup, beaucoup, beaucoup parler sur le terrain. Donc, nous, on veut amener une stabilité économique. On veut amener de la croissance, générer plus de revenus. Mais avec un référendum, ce n'est pas la solution pour y arriver.
La stabilité économique, là, c'est d'abord d'avoir une équipe économique solide qui est prête à redresser la barre des finances publiques du Québec, à mettre fin au gaspillage et à rassurer les partenaires, notamment les partenaires commerciaux du Québec. Et c'est exactement ce qu'on offre. Oui, l'indépendance du Québec fait partie des sujets. Ça fait partie de notre programme. Et de poser la question de l'avenir national de notre peuple, c'est important, surtout en cette période où on se rend compte que si on n'est pas à la table, on est au menu. On est au menu des négociations commerciales internationales actuellement. Mais les gens parlent aussi de l'équipe qu'ils veulent avoir pour parler justement des services sociaux, de l'éducation, de la santé. Et c'est là qu'on leur propose une vision très ambitieuse pour la capitale nationale. Il y a d'autres sujets aussi qui préoccupent les gens. En environnement, en transport et mobilité durable. Et là-dessus, je suis d'accord avec Julie. On a manqué d'ambition dans les dernières années avec le gouvernement de la CAQ et le statut de la capitale nationale n'a pas été respecté. Donc, nous, on veut rehausser ce statut-là. On veut refaire de la capitale nationale ce qu'elle doit être, c'est-à-dire le cœur de l'activité politique, diplomatique, économique du Québec. Et nous, en plus, on veut en faire une capitale internationale.
Oui, mais je pense que c'est très loin dans la priorité des gens et c'est pas vrai que ça amène de la stabilité économique. On l'a vu partout où il y a eu des référendums, puis on a eu des expériences ici au Québec. Moi, en passant, on a une équipe économique. On a une équipe économique qui a aussi été saluée. Tu sais, on peut jouer la game de qui a été le plus salué dans les médias, mais on a une équipe qui a été reconnue aussi. Et on a une expérience de gestion des fonds publics. Quand on a été au gouvernement la dernière fois, on a fait un exercice de diminuer la taille de l'État, de ramener à l'équilibre budgétaire. On est le seul parti qui a réussi à faire ça. Ça fait qu'en termes de crédibilité économique, je pense qu'il faut qu'on y pense. Puis si je me souviens bien, à l'époque, le Parti québécois était plutôt opposé à ça.
Le mot de la fin, on vous laisse une minute chacun pour conclure. La parole est à Mme White, une minute chacun pour conclure un message. Vous me parlez pas, vous parlez pas à Dan, vous parlez à des dizaines de milliers d'auditeurs et d'électeurs potentiels.
Bien, merci beaucoup pour l'invitation. Je pense que ce serait la première chose de pouvoir venir échanger, de pouvoir discuter avec vous sur vos ondes. C'est toujours un plaisir, même quand on se coltaille un petit peu, ça fait plaisir d'échanger. Nous, on est là pour écouter. Oui, on a des idées à vendre, mais on est surtout là pour vous écouter. Puis de venir faire ces exercices-là, ça nous permet aussi de prendre le pouls de tout ça. Moi, je compte être une députée qui va être en mode écoute, qui va être là, qui va travailler avec les gens, qui va prendre les dossiers à bras-le-corps. Puis ça fait partie, c'est dans l'ensemble de la région de Québec. Oui, dans Jean Talon, mais partout dans la région de Québec. Puis ça fait plaisir d'avoir été avec vous.
Monsieur Paradis.
Merci de l'invitation. Merci, Julie. Merci, plaisir Pascal. De débattre avec toi. Les électeurs doivent se poser la question, qu'est-ce qu'ils veulent pour les quatre prochaines années? Et est-ce qu'ils veulent continuer avec la CAQ, son gaspillage de fonds publics, les politiques publiques mal ficelées, des projets comme Nordvolt, pas d'amélioration, même la situation qui s'empire en santé en éducation? Est-ce qu'ils veulent le Parti libéral qui, bien, on l'a entendu aujourd'hui, essentiellement veulent continuer sur le même modèle en immigration, veulent continuer sur le même modèle d'investissement discrétionnaire, donc des milliards qui sont investis au pif du gouvernement qui choisit les gagnants, les perdants, ou alors ils veulent une équipe qui amène du vrai changement, qui amène une vision, des politiques rigoureuses sur tous les sujets sur lesquels on est sorti, et un député qui, depuis 3 ans, a été très à l'écoute, très présent sur le terrain. J'ai eu des centaines d'activités, des centaines de cas citoyens avec les organisations, les entreprises et les gens de la place. Je demande, je sollicite que les gens de Jean Talon m'accordent de nouveau leur confiance pour continuer ce travail de collaboration avec vous.
Merci beaucoup. Merci de votre présence. On est en studio ou on reste en studio?
C'était parfait. J'ai aimé ça. J'ai aimé ça comme débat. Il y avait une certaine diplomatie dans la façon de débattre.
Il y en aura d'autres.
On a vu les pires.
Il faut que ça soit accepté. Il faut que les autres viennent. Il faut que les autres viennent débattre. Et je vous remercie beaucoup de vous être déplacés pour débattre. L'émission continue. The show must go on, comme on disait. On est en direct de Grand Allée à Québec. C'est quelqu'un qui aurait bien figuré dans la présente campagne, mais elle a décidé, pour ses raisons bien personnelles, de ne pas se lancer. Mais on l'accueille parce qu'elle est devenue chroniqueuse dans Montréal Live. C'est Jackie Smith au retour à Radio X.
Petite pause. Morin.
On revient dans pas long.
Live.
Hey, hey, hey.
Radio X.